travers, la race cravée, puis bien loin en arrière, la race d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli la rage, car impossible, et cette paix t'a voulu la rage, de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
Félix 95.5. Cette semaine à La Rage du Peuple, on va avoir une invitée, Claudel, qui va venir nous faire une chronique. À quel sujet, Claudel?
C'est sur la répression policière envers les travailleuses du sexe, puis aussi envers les femmes autochtones.
Et Guillaume, tu vas aussi nous faire une chronique spéciale. Ça va être quoi le thème?
Oui, bien en fait, on va faire une chronique, puis l'actualité également va en être teintée sur les violences policières, puis dans le fond, les forces policières, ainsi que la violence institutionnelle.
OK. Et puis, on va commencer tout de suite, dans le fond. Avec le retour sur la manifestation de dimanche passé, c'était le 8 mars, la journée mondiale des femmes. Alors, Claudel, avant l'actualité, est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à la journée du 8 mars? Ça a commencé à la chaudronnée, je pense.
Exactement,
puis, y a-t-il beaucoup de monde? Y avait-tu,
C'était plein, complet, okay. Complet. Je pense qu'il y avait en tout, il devait y avoir autour de 90 personnes. Je pense qu'il y avait 85 personnes qui étaient attendues. Puis ensuite, donc voilà, on a fait une conférence de... En fait, il n'y a pas eu de conférence de presse, mais des entrevues individualisées avec la tribune, je pense.
Vous avez eu un article dans la tribune. En fait, il y a eu un article dans la tribune.
Oui, on a même fait la une.
Ah ouais, la une?
Ben, une petite photo là sur la une de la tribune là, avec un article sur l'entrevue qui a eu lieu à la chaudronnée.
OK, OK. Puis, dans le fond, il y avait à peu près combien de personnes dans la marche?
Ben, les médias, tu vois, comme la tribune, ils parlaient d'une centaine de personnes. Donc, nous, on estime au-dessus de... En fait, au début, il y avait 50, autour de 50 personnes. Puis après ça, il y a des gens qui se sont rajoutés. Donc, au-dessus de 80, là, moi, je dirais.
Ah ouais?
Ouais.
OK. Et puis, ça a été quoi le moment qui a été le plus frappant pour toi dans la manif?
Bonne question. bonne question. Mais moi, je surveillais beaucoup par rapport à la police. Là. J'avais des craintes parce qu'on les avait avisés qu'il allait y avoir une manifestation. Donc, ça s'est quand même assez bien déroulé. Mais évidemment, il y a toujours...
Ils sont toujours un peu agressifs.
Voilà. Il y a toujours une couple là, qui font les petits chefs et puis qui nous disent comment fonctionner alors qu'on avait exigé qu'on voulait faire notre propre sécurité. Mais je pense qu'en général, on pourrait dire que ça a bien été, là.
OK. Super. Et puis, est-ce que vous pensez que ça va continuer, le collectif du 8 mars?
Oui, effectivement. On veut faire... en fait, je ne veux pas parler au nom du groupe, là, mais avec des discussions individuelles, on s'est consulté, puis on voudrait faire une réunion pour réfléchir là, suite à la suite des choses. Comme je ne sais pas si vous avez vu, là, mais la revue qu'on a publiée, on a mis volume 1, numéro 1. Donc ça, c'est on laisse la porte ouverte à d'autres revues. Puis on aimerait ça aussi éventuellement faire une manif de nuit pour dénoncer le fait qu'on, dans le fond, qu'on a peur de marcher dans la rue des fois. Là.
OK, donc ça va être à suivre. S'il y a des gens qui veulent se joindre au collectif du 8 mars ou qui veulent avoir de l'information, je suppose qu'ils peuvent appeler au RAJ.
Oui, exactement, ou laisser un courriel là, sur le site Internet.
OK, donc le site Internet, c'est quoi? Les coordonnées, tu sais pas? OK, bon, ben ils peuvent appeler au RAJ ou le 819-542-1045.
Oui, au pire, s'il n'y a personne, là, laisser un message.
Donc, on va passer au côté de l'actualité avec Guillaume. Est-ce que tu aurais quelques actualités à nous donner?
Ben oui, puis comme c'est le 15 mars, très prochainement, 15 mars, qui est la Journée internationale contre la brutalité policière, j'ai trouvé étrangement une abondance d'informations concernant les policiers en général, les forces de l'ordre, puis bien sûr, les bavures qu'ils et elles peuvent commettre, malheureusement. Donc, premièrement, on va revenir sur les événements entourant la mort de Freddy Villanueva. Les deux policiers qui ont été impliqués dans l'assassinat de Freddy Villanueva souhaitent que leur nom ne soit plus nommé. Donc, dans le fond, les avocats des agents de la police de Montréal, Jean-Louis Lapointe et Stéphanie Pilote, les deux policiers qui sont impliqués dans la mort de Freddy, qui ne souhaitent plus que leur nom soit diffusé dans les médias ou réutilisé d'une quelconque manière. Et ce, malgré le fait qu'il n'y a aucune accusation qui va être portée contre eux. Donc, le juge Robert Sansfaçon, qui préside l'enquête publique du coroner, entendra cette requête le 8 avril au palais de justice de Montréal. Les avocats demanderont que l'identité de leur client ne soit pas diffusée dans les médias, de même que tous éléments permettant de les identifier, y compris les photos, etc., etc. Donc, l'enquête publique qui devait débuter au centre judiciaire Gouin en février dernier a été reportée au 25, 26, 27 mai, de même qu'au 1er, 2, 3, 4, 5 juin 2009. Donc, l'enquête se tiendra plutôt au palais de justice de Montréal. Tout ça qui peut être mis en lien également avec une pub, dans le fond, pour la journée annuelle contre la brutalité policière qui va être organisée au métro Mont-Royal le 15 mars prochain. Parce que, à quelques jours de la manifestation, des autocollants accusant le policier Jean-Loup Lapointe de flic assassin dérangeaient justement les agents du service de police de la ville de Montréal. Les autocollants traitant de flics assassins ont été collés ces derniers jours un peu partout dans le métro de Montréal et à l'extérieur autour des édicules.
Il y en a aussi un petit peu à Sherbrooke.
Oui, même à Sherbrooke. D'ailleurs, c'est des collants très efficaces. Une photo de l'agent y apparaît avec le texte suivant. Jean-Loup Lapointe, profession flic assassin, employeur SPVM, syndicat FPPM, c'est la fraternité des policiers et policières de Montréal, et qui est dans le fond encore en service malgré le meurtre de Freddy Villanueva. Le texte de l'autocollant se termine par une invitation à participer à la 13e manifestation annuelle contre la brutalité policière qui aura lieu dimanche à 14h à la station du métro Mont-Royal. En début d'après-midi, mardi, les policiers ont été aperçus par Cyberpresse en train d'essayer d'enlever les autocollants sur des téléphones. Il faut croire qu'ils ont un peu honte ou tout simplement, bref. Le collectif opposé à la brutalité policière qui organise la manifestation dimanche affirme que les autocollants montrant la photo du policier Lapointe ne sont pas de son cru. Ce sont des individus indépendants de nous qui les auraient faits, mais nous sommes entièrement en accord avec leur démarche, a indiqué la porte-parole Gabriel Potvin. Nous considérons qu'il est très légitime de publier des photos montrant le visage d'un policier qui a commis une faute. De toute façon, la photo du policier a déjà été amplement diffusée dans les médias, a ajouté Mme Potvin. Donc, ça, c'était la nouvelle concernant les événements liés au meurtre de Freddy Villanueva. Et je vais en profiter, d'ailleurs, pour vous le rappeler, que dimanche, dans le fond, le 15 mars, se tiendra la 13e journée contre la brutalité policière à Montréal. C'est une manifestation qui est généralement assez mouvementée, mais qui ça vaut la peine de dénoncer ces actes-là, qui, en général, sont plutôt discrets dans les médias en général.
Savez-vous s'il y a du transport d'organiser par la Aix?
Je ne le sais pas encore, mais j'avais l'impression que oui, que ce soit par la Aix ou par les associations étudiantes de l'université. Il faudrait y voir. Sinon, une autre nouvelle qui commence à dater, celle-là, dans le fond, c'est deux policiers qui étaient impliqués dans la mort d'un sans-abri qui vont porter leur cause en appel aujourd'hui. Il avait été, il y avait une sanction de 25 jours sans salaire qui était imposée par le comité de déontologie policière le mois dernier pour une affaire qui date du mois de septembre 1999. Il y a déjà un moment, il faut dire. Sylvain Fouquet et Giovanni Stante du service de police de la ville de Montréal ont été négligents et insouciants lors de l'arrestation de M. Lizotte qui a statué le comité dans une décision rendue le 13 août dernier. C'est une décision qui a été rendue 10 ans après le drame. Et puis, le comité a imposé une sanction de 25 jours sans salaire en soulignant que le geste des policiers constitue un manquement grave aux devoirs et normes de conduite des policiers. Les policiers interjettent en appel car ils estiment, entre autres, que le comité a erré en droit et en fait en imposant des sanctions excessives et démesurées qui s'écartent de la jurisprudence applicable en semblable matière, peut-on lire dans la demande. Le 5 septembre, pour rappeler les faits, 1999, vers 2h du matin, une bagarre éclate entre les employés du restaurant du boulevard Saint-Laurent et Jean-Pierre Lizotte parce qu'il se masturbait en public devant les clients. Les deux policiers sont appelés donc sur les lieux de la bagarre vers 2h46 et ils séparent les individus en éloignant le sans-abri de la scène. Mais l'homme décide de revenir vers les terrasses bondées et Lizotte donne des coups de pied aux policiers. Dans le fond, l'agent Stanté va donc répliquer d'un coup de poing à M. Lizotte, ce qui va le blesser et il va être emmené en voiture de police à l'hôpital pour qu'on constate que finalement, l'homme souffre d'une fracture à la colonne vertébrale et est donc paralysé des membres inférieurs. Puis, 2 mois plus tard, il va mourir des suites d'une pneumonie. Donc, c'était les faits qui sont reprochés aux deux policiers qui portent leur cause en appel. Sinon, pour continuer toujours en actualité, à moins qu'on...
On va aller faire une chanson.
On va aller faire une pause, oui.
Ouais, on s'en va écouter Balkan Beats.
Sure, it's a
À l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Nous en sommes toujours à la partie de l'émission où est-ce qu'on parle d'actualité. Est-ce que, Guillaume, tu avais d'autres nouvelles à nous annoncer?
Oui, bien, une concernant l'Afghanistan, c'est le ministre des Affaires étrangères de la France, Bernard Kouchner, qui a dit ne pas exclure l'arrivée au pouvoir de Taliban à la suite des élections présidentielles prévues en Afghanistan le 20 août prochain. Il aurait déclaré que nous devons respecter le résultat des prochaines élections, quel qu'il soit, affirmant que si des nationalistes talibans parviennent au pouvoir par les urnes et respectent la Constitution, c'est l'affaire des Afghans. Il estime aussi qu'il n'est pas question de faire de l'Afghanistan une démocratie à l'occidentale, en précisant que la France y restera militairement. Là, je tiens à préciser que c'est vraiment drôle d'être en guerre depuis quoi plus de 8 ans dans un pays étranger pour combattre. Bon, pour des valeurs un peu vagues de démocratie, de liberté occidentale. Puis là, on se dit que finalement, s'ils gagnent les élections, on va leur ficher la paix, puis on va se dire que les Afghans n'auront qu'à s'arranger avec leurs troubles, à pénurer une guerre presque civile de 8 ans. En tout cas, personnellement, je ne sais pas à quoi pense Bernard, mais c'est un imbécile heureux. Sinon, pour continuer... le CPI, dans le fond, la Cour pénale internationale, envisagerait d'enquêter sur le cas d'Israël. L'Argentin Luis Moreno Ocampo qui envisage d'enquêter justement sur Israël pour crime de guerre après son intervention militaire qui a fait 1300 morts à Gaza. A-t-il indiqué au journal dominical Perfil à Buenos Aires? Une citation. Nous évaluons le sujet. Nous sommes dans une phase d'analyse. Je n'ai pas encore décidé si nous lancerons des investigations, mais il y a une possibilité que ça arrive, a expliqué M. Moreno Ocampo quelques jours après avoir obtenu que le CPI émette un mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar al-Béchir, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour. Luis Moreno Ocampo a dit qu'il analyserait les plaintes déposées devant le CPI par Ali Kachan, ministre de la Justice de l'Autorité palestinienne, en janvier. Le 27 décembre, Israël a déclenché une offensive dévastatrice de 22 jours dans la bande de Gaza qui a fait plus de 1300 morts palestiniens et l'Autorité palestinienne accuse Israël d'avoir fait usage de buts incendiaires au phosphore blanc dans des zones peuplées de civils au cours de cette opération, ce qui est d'ailleurs interdit selon les lois internationales. Kachan est venu dans mon bureau et a indiqué qu'il était important d'enquêter sur les crimes à Gaza, a poursuivi M. Moreno Ocampo, ajoutant qu'il attendait également sur ce sujet des documents de la Ligue arabe et d'Amnesty International. Depuis le lancement de l'opération israélienne, le CPI a reçu 213 demandes d'intervention auxquelles le bureau du procureur n'a pu donner suite, Israël n'étant pas signataire du traité de Rome, ce qui a instauré cette cour dans le fond. Cependant, M. Moreno Ocampo envisage désormais la possibilité de lancer des investigations sur la base de la plainte de l'autorité palestinienne, ce qui constituerait un précédent historique puisque la Palestine n'a jamais été considérée comme un État indépendant par un organisme international, selon Perfil. Donc, une autre bonne nouvelle considérant l'apartheid israélien. Puis, c'est ce qui fait le tour pour ce qui est de l'actualité aujourd'hui.
On va aller faire un tour avec un clip qu'on est allé chercher dans les enregistrements de l'émission On Jase qui a lieu tous les matins à CFLX. C'est des enregistrements qui ont eu lieu dimanche dernier. Donc, c'est pour faire un autre retour rapide pendant 3 minutes. On va aller écouter Thierry qui nous parle au nom du regroupement autonome des jeunes.
Alors, toujours dans cette journée internationale des femmes du 8 mars, une autre intervenante dans cette journée, elle va se présenter et qui elle représente?
Oui, bonjour, moi c'est Thiro. Je suis militante au regroupement autonome des jeunes, qui est un regroupement, qui est un organisme à Sherbrooke, en fait, qui fait dans les forces de droit des jeunes. Puis je représente aujourd'hui le collectif du 8 mars, en fait. Il est un collectif qui regroupe plusieurs groupes à Sherbrooke, entre autres le comité femmes de la Aix, Concert Action Femmes Esprit, d'autres groupes comme ça, et des personnes indépendantes qui ont décidé de s'impliquer dans la marche du 8 mars cette année.
Une marche, d'ailleurs, aujourd'hui, qui va se dérouler, une marche très symbolique, parce qu'elle va comme représenter, à travers quelques arrêts, beaucoup de défis et de luttes qui se continuent.
Oui, bien, justement, on a pensé faire ça plus thématique, mais des thématiques plus spécifiques. On a établi un trajet, puis on a décidé de s'arrêter à certaines places stratégiques. Entre autres, on a commencé par l'Hôtel Dieu, où est-ce qu'on va passer, on va parler de la privatisation des services sociaux. Donc, on sait que la santé est en train de se faire privatiser. On va parler de la privatisation des services sociaux, puis les impacts plus spécifiques sur les femmes. On va repasser devant la Chaudronnée pour parler de la pauvreté et des impacts spécifiques sur les femmes. On va passer devant le cinéma, où il y a le film Polytechnique qui joue, pour parler de la pertinence du féminisme aujourd'hui, est-ce que c'est toujours pertinent? Ensuite, on va arrêter sur la Wellington pour parler devant les bars de la drogue, du viol, GHB, entre autres. Et aussi, on va parler de la marchandisation du corps des femmes. On va arrêter aussi au 187 Laurier, qui est la place où est-ce que les organismes communautaires sont beaucoup regroupés à Sherbrooke, pour parler des ressources pour les femmes à Sherbrooke dans le communautaire. Puis on finit sur la statue Cénotaphe sur King, pour parler de la militarisation du corps policier, puis comment ça affecte les femmes entre autres par le viol en temps de guerre.
Alors donc, toute une symbolique. Est-ce que on vous avait comme invité vendredi matin? C'est important de dire que si aujourd'hui, 8 mars, c'est une journée importante, elle doit être à tous les jours un 8 mars, parce que ces défis-là, ces luttes-là sont toujours présentes.
Oui, exactement. On parle de l'équité salariale qui est toujours pas arrivée, du marché du travail qui est mésadapté. Donc, on n'a pas assez de garderies pour les femmes qui ont des enfants, qui ont besoin de travailler, qui veulent travailler aussi, du droit à l'avortement qui est constamment menacé et tout ça. Donc, oui, pour nous, c'est important d'aborder ces sujets-là, parce que c'est une lutte qui se fait au quotidien. C'est pas seulement le 8 mars qu'il faut penser à ces choses-là, c'est qu'il faut y penser à l'année longue, parce que c'est des luttes qui doivent être menées à l'année longue par les hommes et par les femmes.
Et justement, avec votre jeune âge, ce matin, dans la presse, c'est les gens ont eu la presse de dimanche, on parlait souvent que le féminisme était très fort chez les baby boomers, mais chez les jeunes femmes comme vous, c'est encore présent?
Oui, c'est encore présent. On pense à l'organisation Toujours Rebelle, qui découle, qui est un comité de la Fédération des femmes du Québec, finalement, qui regroupe beaucoup, beaucoup de femmes. Au dernier congrès qu'ils ont eu, au dernier rassemblement, on était plus de 500. Donc oui, chez les jeunes, il y a encore, je pense qu'on sent encore la pertinence du féminisme chez les jeunes femmes à travers le Québec, oui.
Bien, merci infiniment, Thiro.
Merci à vous.
On va continuer avec maintenant une partie de l'émission On jase de ce matin, sauf plus précisément avec un événement qui a été reporté, qui a eu lieu ce matin même, et c'était avec l'Association des locataires.
Alors, avec moi, Normand Couture, de l'Association des locataires, coordonnateur, devant les bureaux de Monique Gagnon-Tremblay, en ce mardi matin, 10 mars. Pour quelle raison vous venez voir Mme Tremblay?
Vous savez qu'il va y avoir un budget le 19 mars. Le gouvernement du Parti libéral, lors de la dernière campagne électorale, s'est engagé à construire 3 000 unités par année pendant une période de 5 ans. On sait que les dernières nouvelles nous indiquent que le gouvernement va créer un déficit dans un objectif de création d'emplois. On sait également que les premiers coupures qu'un gouvernement a tendance à faire, c'est les services sociaux. Les services à la population et le logement social font partie de ça. Donc, on est très inquiet à l'idée que le gouvernement ne respecte pas son engagement. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est que vous voulez relancer l'économie. Une bonne façon de relancer l'économie, c'est la construction de logements sociaux. Ça crée des emplois. Ça permet, après, aux gens qui vont demeurer dans ces logements sociaux-là, qui vont payer 25 % de leurs revenus, de consommer plus, parce qu'ils vont avoir les moyens de consommer un peu plus, vu qu'ils ne consacreront pas tout leur argent au logement. En plus, ça diminue les coûts de santé, parce que ces gens-là ne se retrouvent pas dans les hôpitaux, parce qu'ils vivent dans des logements énergivores ou insalubres.
Et aujourd'hui, ben, vous venez voir Monique Gagnon-Tremblay, pas seulement à titre de député, mais aussi parce qu'elle occupe dans le gouvernement Charest un poste important.
Oui, Mme Gagnon-Tremblay était nommée ministre du Conseil du Trésor. Vous savez, c'est elle qui a les cordons de la bourse. Hein? Donc, c'est elle qui va dire oui ou non aux demandes des différents ministères, dont le ministère responsable de l'habitation, Mme Normandeau. Quand Mme Normandeau va dire je veux 3 000 unités, c'est elle qui va décider oui ou non qu'on va les accorder selon les critères que le Parti libéral se seront donnés. Donc, on dit à Monique Gagnon-Tremblay qu'il y a une grande responsabilité au sein de ce gouvernement-là de respecter un engagement qu'elle a signé avec M. Charest concernant la construction de logements sociaux.
Donc, évidemment, le budget de jeudi prochain, le 19, sera très suivi par l'Association des locataires de Sherbrooke.
Elle va être très suivi, puis on demande à Mme Tremblay et à M. Charest de nous rassurer immédiatement sur leur engagement. On n'est pas obligé d'attendre au budget pour savoir que, oui, effectivement, le gouvernement va y aller de ses engagements. Il pourrait rassurer en nous confirmant que, oui, cet engagement-là, ils vont le respecter.
Merci beaucoup, Normand.
Merci.
Salut, Oli. C'est quoi ça, le collectif Recirque?
Ben, le collectif Recirque, c'est un nouvel OBNL qui promouvoit les arts du cirque. Si tu veux en savoir plus, t'es invité à l'Assemblée générale annuelle qui va avoir lieu mercredi le 18 mars à partir de 18h30. C'est à la Chaudronnée de l'Estrie, au 470 rue Bowen-Sud. Et puis pour les petits gourmands, il y aura un goûter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à recirque@commercial.hotmail.com.
Tu as du film au ventre, un impérieux besoin de tourner, de prendre trip? La Course Estrie, voilà le remède à ton irrépressible envie de court-métrage. La Course Estrie est l'occasion unique de réaliser tes films dans un cadre professionnel, d'ajouter une formation de l'INIS à ton CV, de remporter des prix pour l'excellence de tes œuvres et de voir tes films être télédiffusés et distribués au Québec et dans le monde. La Course Estrie, une expérience exceptionnelle qui propulse une carrière à tout cinéaste qui a du film au ventre. Inscris-toi avant le 6 avril sur courseestrie.com.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca. Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Est.
Alors avec moi, Suzanne Thériault, coordonnatrice à l'Association des locataires de Sherbrooke. Dans le dossier logement, particulièrement la revendication de logements sociaux, il y a un dossier qui vous tient particulièrement à cœur, Suzanne.
Oui, effectivement, là, c'est le dossier femmes. Ce qu'on peut constater au fil des ans, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont les plus pauvres et c'est la même chose pour les femmes en logement. Les conditions de vie des femmes en logement, bien que ce soit amélioré au cours des ans, on peut encore déplorer que c'est les plus précaires et c'est les femmes encore qui ont le plus de misère là, à joindre les deux bouts.
Et d'ailleurs aussi, tout dernièrement, le FRAPRU, dont fait partie l'Association de locataires, a sorti un dossier qui, malheureusement, confirme vos dires.
Effectivement, ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de ce dossier-là, c'est que selon les statistiques de 2006, encore aujourd'hui, les femmes ont des revenus moins élevés que les hommes. Quand on regarde pour les ménages locataires dont le principal soutien financier est une femme, le revenu médian est de 7 000 $ inférieur à celui des hommes, alors que lorsque c'est des familles monoparentales, avec comme principal soutien une femme encore, eh bien là, à ce moment-là, le revenu médian est de 11 000 $ inférieur à celui des hommes, ce qui est énorme. On peut voir aussi à l'intérieur de ce dossier-là que à Sherbrooke, plus particulièrement, il y a plus de 1220 ménages dont le principal soutien financier est une femme encore, qui doit défrayer 80% et plus de ses revenus pour se loger. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, ce soit les femmes qui vivent dans la misère, qui vivent des conditions exécrables en logement, qui ont de la difficulté à arriver. Ça prend absolument à la fois investir au niveau du logement social, mais aussi investir au niveau des revenus des femmes pour augmenter le revenu des femmes pour qu'elles puissent arriver à couvrir leurs besoins essentiels en logement. Quand on travaille à améliorer les conditions de vie des femmes, on travaille à améliorer les conditions de vie de la population en général.
Bien, merci beaucoup, Suzanne.
Ça me fait plaisir, Alain. Bonne journée.
Salut, Oli.
On s'en va continuer en musique tout de suite avec Bergerie Noire et la chanson SOS.
Je suis le soldat,
c'est
celui d'hôpital, la tête bornée comme une momie. Les deux yeux coulés derrière de grosses lunettes noires, des lignes de combat, opération de survie. Et dans sa tête, tout est mutilé, les filles, les images sont hantées. Et dans sa tête, tout enveloppé, il veut les images comme de la boue glacée.
Alerte,
alerte sur le Vietnam, alerte, alerte sur...
De retour en studio à l'émission La Rage du Peuple, on vient d'entendre le groupe de Scatolites avec la de Scatolites et Peter Tosh avec la chanson Shame and Scandal. Tout de suite avant, c'était Berruyer Noir avec leur chanson SOS. On va donc continuer avec le programme de l'émission. On va entendre Claudel. Allô Claudel.
Salut. Donc, moi, je vais vous parler de la répression policière envers les travailleuses du sexe. Je vais commencer d'abord avec les formes de violence qu'elles subissent. La première, c'est l'impossibilité pour elles d'être reconnues ou entendues en cas d'agression. Donc, quand elles vont porter plainte ou elles vont aller voir la police, ce qu'elles vont se faire répondre généralement, c'est qu'elles ont... en fait, la pensée dominante de la police par rapport aux agressions qu'elles subissent, c'est le fait qu'elles ont couru après le trouble. Donc, ils vont être méprisants. Et puis, les travailleuses du sexe vont être incomprises. Ensuite, il y a les violences quotidiennes qu'elles subissent, comme les rondes de police, les contrôles de papier, le fichage, les menaces ou les insultes. Elles vont aussi être souvent brutalisées physiquement et psychologiquement lors des interpellations. Elles vont recevoir des insultes et des humiliations sexistes, homophobes, racistes ou transphobiques. Elles vont souvent aussi vivre des fouilles au corps, anal et vaginal, au nom de la recherche de stupéfiants. D'autres vont être déshabillées et devoir rester nues en cellule. Puis aussi, on remarque aussi un grand nombre d'agressions sexuelles en milieu carcéral par les détenus, mais surtout par le personnel. Ensuite, une autre forme de violence ou de répression policière, c'est les interpellations, les intimidations, le harcèlement, les abus. Puis aussi, des arrestations qui vont être souvent inutiles. Donc, en ce moment, à Montréal, la forme de répression policière la plus courante, je dirais, c'est elle va s'exercer sous forme de billets d'amende pour violation de règlement municipaux. Donc, qu'est-ce que j'entends par inutile? Ça va être des amendes pour, mettons, par exemple, des traversées de rues illégales, flâneries et autres infractions qui vont être faites dans le but de perturber leurs activités. Donc, elles vont être punies pas directement pour cause de prostitution, travail du sexe, mais par violation des règlements municipaux. Comme par exemple, en 2001, il y a eu 38 arrestations pour sollicitation et puis c'est passé de 825 en 2004. Donc, puis entre 2003 et 2004, le nombre d'arrestations a augmenté de 42%. Puis depuis ce temps-là, la prison Tanguay est surpeuplée. Une autre forme de répression, ça, c'est les quadrilatères. Donc, c'est une ordonnance qui délimite une zone de circulation. Donc, les travailleuses du sexe vont être interdites de circuler dans cette zone-là. Mais le problème, c'est qu'elles sont aussi souvent résidentes de ces quartiers où est-ce qu'elles sont précisément interdites d'entrer. Puis, c'est aussi là où se trouvent la plupart des services et tout ce dont elles ont besoin pour vivre. Par exemple, les écoles où leurs enfants vont, les soutiens des groupes communautaires comme Stella. Ce qui va arriver suite à ça, c'est qu'elles vont se retrouver complètement isolées ou elles vont finir par rompre leurs conditions pour pouvoir continuer à vivre. Puis, en conséquence, elles vont se retrouver en prison. Puis là, à partir de là, il y a un cercle vicieux de criminalité qui va embarquer. Puis qui va être difficile à briser parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix d'entrer dans ces zones de circulation. Donc, ça va être un cercle vicieux continuel d'amendes et de visites en prison. Donc, ensuite, les conséquences qui vont en suivre, c'est qu'en tentant, elles vont vouloir échapper de la police à cause de cette répression-là. Puis, par la suite, elles vont s'exposer à des pratiques qui vont être moins sécuritaires, elles vont s'isoler davantage, puis elles vont diminuer les temps de négociation avec les clients. Ensuite, elles vont devoir changer de lieu de travail. Donc, avant, elles travaillaient dans des rues passantes et éclairées, puis là, elles vont devoir s'isoler dans des ruelles ou dans des rues moins éclairées, des parkings. Ensuite, elles vont prendre plus de risques, donc elles ne prendront pas le temps de regarder les voitures, le numéro de plaque d'immatriculation. Elles vont prendre moins de temps aussi pour négocier le lieu, le prix, puis les conditions. Elles vont vivre aussi de la violence, donc des coups de poing, des coups de couteau, des menaces avec des armes à feu, des agressions sexuelles, puis elles oseront pas porter plainte. Puis elles vont banaliser la violence qu'elles vivent souvent. Et puis, c'est pas mal ça pour la répression policière chez les travailleuses du sexe.
J'aurais une question pour toi, Claudel. C'est quoi, tu as parlé d'un groupe communautaire tantôt, Stella, c'est ça?
Oui.
OK, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi? Je connais pas beaucoup ça.
Oui, ben, je voudrais pas parler en leur nom, mais moi, de ce que je comprends, c'est beaucoup de la défense des droits. Donc, beaucoup d'informations que j'ai là, c'est un mémoire qui a été déposé là, contre l'itinérance à Montréal.
OK.
Donc, voilà.
Est-ce qu'on s'en va faire une pause musicale?
Mm-hmm. Oui, puis après ça, je vais continuer avec les femmes autochtones.
Guillaume, c'est quoi la chanson que tu nous as préparée?
Et on va l'écouter, une chanson de Bérurier Noir, encore une fois, avec « Vivre libre ou mourir ».
Yeah!
La 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 la
Berrurier Noir avec la chanson Vivre libre ou mourir. On va continuer avec la chronique à Claudel. Tu vas nous parler de quoi maintenant, Claudel?
Des femmes autochtones. En fait, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai constaté que c'était difficile de trouver des sources sur la brutalité policière envers les femmes autochtones. Même que quand j'ai recherché, une des premières choses que j'ai vues, c'est « Nous recrutons à la GRC ». Donc, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais à défaut de m'impliquer dans la GRC, j'ai pour vous un extrait du carnet de solidarité autochtone, qui est une publication du mouvement de solidarité avec les peuples autochtones. Donc, selon eux, les deux dernières décennies ont vu disparaître quelques 500 femmes autochtones au Canada à travers meurtres et disparitions morbides. Selon Beverly Jacobs, Mohawk et présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, personne ne connaît les chiffres exacts sur les femmes mortes ou portées disparues. Ceci est en partie dû au fait que le Canada conserve des archives incomplètes de l'ethnicité des gens ayant subi de la violence et en partie parce que beaucoup d'Autochtones sont devenus tellement méfiants et méfiantes de la police, entre autres à cause de la brutalité policière et la répression répandue contre les communautés autochtones. Donc, c'est pour ça que les Autochtones rapportant des incidents à la police se font rares et lorsqu'ils et elles rapportent, ils et elles ne seront pas pris au sérieux ou traités avec respect. Les statistiques du gouvernement canadien estiment que les femmes autochtones âgées entre 25 et 44 ans sont 5 fois plus à risque que les autres femmes canadiennes du même âge de mourir des conséquences de violence. Amnesty International Canada a mené des entrevues avec les familles de plusieurs femmes disparues ou tuées. Selon ces témoignages, il apparaît évident que la police a échoué de manière répétitive de protéger les femmes autochtones et de faire enquête sur les crimes perpétués contre elles de manière assidue ou dans des délais respectables. Certains officiers auraient attendu quelques jours avant de faire suite aux rapports de femmes disparues, même lorsqu'elles ont sombré sous de suspicieuses circonstances. Une famille a trouvé que la police avait perdu le dossier sur leurs proches disparus. Dans un autre cas, 16 ans se sont écoulés entre le crime et la sentence. De tels cas de négligence systématique, de sexisme et de racisme montrent que la police a généralement peu d'intérêt dans de tels cas, fortifiant ainsi leur complicité dans le perpétuel génocide des peuples autochtones à travers le Canada. Ensuite, Sandra Gagnon, une femme vivant à Vancouver, dont la sœur est disparue en 97. La sœur de Gagnon, Jeannette Henry, est l'une des 70 femmes autochtones et non autochtones, incluant les travailleuses du sexe, a disparu du rue de quartier Centre-Ville-Est de Vancouver depuis 1980. Ils ne prenaient pas ça au sérieux puisque toutes ces femmes étaient disparues du centre-ville, disait Gagnon. Si elles étaient portées disparues de d'autres quartiers, quelque chose aurait été fait en une seconde. Donc, c'est pas mal ça, là. On voit que beaucoup de femmes autochtones ont vécu de la violence puis qu'elles n'ont pas eu l'attention nécessaire qu'auraient sûrement eu d'autres femmes plus riches et blanches, à mon avis.
Super. C'est intéressant je trouve ça d'apprendre, en fait.
Oui, bien, je veux dire, c'est évident que en général, les femmes vont être davantage victimes de la violence. Puis, dans ce cas-ci, ils ont une profession qui n'est pas reconnue par l'État. Donc, ils vont subir 10 fois plus de... Ben, je veux dire, il faut s'y attendre. Ils vont subir 10 fois plus de violence. Puis, il n'y a rien d'étonnant si la police fait rien, en tout cas.
Ben, à mon avis, ils devraient être inclus en technique policière. Je veux dire, qu'il y ait une formation pour qu'il y ait un déplogage, si on veut, là, de discrimination. La police n'est pas là pour choisir qui vont aider, dans le fond. Donc,
on va pouvoir aussi se poser la question, c'est quoi le rôle de la police dans la société plus tard dans l'émission avec la chronique à Guillaume?
Oui.
C'est rapidement, en deux mots, est-ce que tu peux nous présenter la chronique que tu vas nous faire après la pause
musicale? Oui, bien en fait, c'est de voir comment s'est structuré le pouvoir par le biais de la police, puis de faire un retour historique sur les différentes existences de forces ou de corps policiers par le passé.
Bon, on s'en va écouter Hélène et le sang, puis on revient tout de suite après.